l'actualité des idées aujourd'hui, rural et après. Invité le sociologue Benoît Coquart, auteur de « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin » qui paraît à la découverte. Une enquête chez lui dans le Grand Est pour expliquer, dit-il, le violent triage d'une génération. Une sélection scolaire, sociale, économique et géographique qui crée parfois un sentiment d'abandon. La conviction pour cette jeunesse rurale que leur vie n'intéresse personne. Terreau peut-être aussi de la colère des gilets jaunes à l'automne dernier. Bonjour à vous Benoît Coquart.
Bonjour.
Ils sont les enfants de familles ouvrières, fils et filles de la classe populaire. Vous dites dans ce livre qu'ils sont ceux qui restent contre le cours des choses. Ce serait quoi ce cours des choses ?
Alors il y en a plusieurs. Il y en a un qui a commencé il y a longtemps, c'est celui de la désindustrialisation, du fait qu'ils habitent dans des campagnes, ce que j'appelle les campagnes en déclin, qui perdent des emplois ou en tout cas sont sur des marchés du travail atones. Donc ils restent alors même qu'ils sont de plus en plus en concurrence les uns les autres pour se disputer les rares bonnes places, comme ils disent, qui sont à pourvoir. Souvent on attend le départ en retraite de quelqu'un de son entourage pour postuler et on compte sur le piston des amis ou des connaissances pour obtenir un poste. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a le départ quand même assez massif des nouvelles générations qui viennent des cantons les plus dépeuplés, environ un tiers d'une génération qui part faire sa vie en ville ou en tout cas dans les grandes villes universitaires. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a une massification scolaire, on accède à l'enseignement supérieur même si on vient de milieux plutôt populaires. Donc voilà, il y a toujours ce dilemme de savoir si on part ou on reste quand on a 18 ans, en sachant que si on part, on va avoir potentiellement du mal à revenir.
On a beaucoup parlé du dépeuplement des campagnes à un moment, puis de leur repeuplement. Où en est-on aujourd'hui de ces mouvements ?
Alors, dans l'ensemble des milieux ruraux français, on a un mouvement de repeuplement. En fait, les campagnes, elles gagnent des habitants si on prend le territoire dans son ensemble. C'est pour ça que moi, je prends soin de parler des campagnes en déclin, c'est-à-dire celles qui n'attirent pas les néo-ruraux, qui ne font pas l'objet de tourisme, d'un certain regard contemplatif, hein, où on valorise comme ça une identité locale, voire une langue régionale, tout ça c'est les milieux ruraux en fait qui attirent des habitants, qui plaisent et qui aussi économiquement sont les plus dynamiques, même ceux qui sont partis faire des études, les jeunes du coin ils reviennent parce qu'il y a des emplois qui leur correspondent ou parce qu'on peut y habiter et travailler à la ville. Non, moi là on est sur une autre réalité, c'est celle des anciennes campagnes industrielles qui s'étendent plutôt du nord jusqu'au grand est de la France, qui ont été très frappées par la désindustrialisation et tout le monde qui avait autour des petits commerces, des cafés, des petites entreprises a été un impacté. Donc celles-ci, elles perdent encore des habitants. On a le tableau qui est devenu un petit peu sinistre dans certains bourgs des centres-villes désaffectés, avec des maisons plus ou moins abandonnées. Voilà, moi, je parle de cette réalité-là qui est minoritaire dans le milieu rural, mais qui concerne quand même toute une région de la France industrielle.
Mmh. Votre livre est, on l'a évoqué déjà, et c'est vrai, le pendant sociologique et non romancé du Goncourt 2018, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Beaucoup de ressemblances, beaucoup de points communs entre ce que vous racontez l'un et l'autre. Lui, avec la plume du romancier, vous avec celle du sociologue. Qu'a traité dans la vie d'une jeunesse de l'Est de la France, leurs amours, leurs familles, leurs galères, le chômage. On écoute Nicolas Mathieu.
C'est une petite vallée où un monde est en train de s'achever. Un monde qui a duré 100 ans, qui a donné du travail à tout le monde, qui a fait vivre des familles entières, celui de l'industrie sidérurgique. Et c'était le monde des hommes du fer, c'est-à-dire que tout le monde bossait plus ou moins à faire du métal avec du minerai et du feu. Et ce monde-là, les emplois sont partis, il est en train de mourir. Et c'est l'histoire d'une poignée de gamins qui doivent faire avec cet héritage dont ils ne veulent plus, avec aussi un autre monde qui émerge. Parce que c'est jamais la fin du monde, à la fin d'un monde. C'est toujours aussi l'émergence de quelque chose de nouveau. Et ce qu'on voit sourdre dans cette vallée à ce moment-là des années 90, c'est le monde dont nous sommes les héritiers, nous, immédiatement, du libéralisme, des travailleurs transfrontaliers, de l'emploi atomisé. Mais c'est la fin de la classe ouvrière, ça c'est sûr.
C'est un monde nouveau que vous racontez, vous aussi, Benoît Coquart.
Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements depuis en fait le bouleversement qui s'est opéré autour du marché du travail. On avait coutume de dire, notamment parmi les jeunes que j'enquêtais, il y avait une forte nostalgie d'une époque qu'eux-mêmes n'avaient pas connue, qui était l'époque de la jeunesse de leurs parents, de leur père notamment, parce que c'était une nostalgie très masculine, hein, et je pense que c'est pas pour rien si ce discours nostalgique qu'on entend aussi beaucoup chez les auteurs hommes. Il y avait ce côté que On me disait on pouvait tout faire en vélo dans le temps, on allait à l'usine en vélo et puis les commerces étaient en proximité, il y avait du boulot pour tout le monde, il n'y avait pas toute cette concurrence qu'on expérimente aujourd'hui et qu'on regrette. Et alors que par comparaison, et bien voilà, maintenant tout s'étend, comme dit Nicolas Mathieu, il faut aller chercher des emplois pour le nord-est de la France, dans la Lorraine là, plus particulièrement, il faut aller chercher des emplois ailleurs, dans un autre pays carrément. Mais moi ça se concrétise plus dans les campagnes en déclin par faire des trajets de 50 km aller pour travailler dans la dernière usine qui embauche ou dans une boîte encore en bonne vitalité. Et ça effectivement ça donne le sentiment pour ces jeunes-là d'un monde défait. Donc on s'agrippe au style de vie qu'on valorise de le milieu rural, on y voit encore beaucoup d'avantages, on se verrait pas habiter ailleurs. D'ailleurs, ils me disent Paris jamais de la vie, la ville elle fait figure de repoussoir, mais néanmoins, il y a ce sentiment que tout devient de plus en plus contraint et que tout est à plus grande distance et il y a la possibilité parfois de se réaliser parce qu'on se dit ben voilà, si tu n'arrives pas à passer le permis de conduire, ça veut dire que tu pourras pas aller chercher du travail ou au bout d'un moment tout simplement, il y aura plus assez de travail pour tout le monde, donc il y en aura certains qui seront contraints d'émigrer.
Qu'est-ce qui est repoussoir dans l'idée de Paris ou de la ville ? Est-ce que c'est ce sentiment d'appartenance à un monde commun qui disparaîtrait en y allant, d'être une pièce rapportée, un étranger chez soi ? Est-ce que c'est aussi ce besoin de reconnaissance que tout le monde a, qui est très difficile à obtenir quand on part en ville ?
Bah, aujourd'hui, bon, comme on le sait, on est dans une société des diplômes, qui fait qu'il faut des certifications scolaires pour obtenir des emplois qui ne sont pas des emplois d'exécutants. Mais ces diplômes-là, on les valorise dans les grandes villes. Or, ce que ça permet de rester à la campagne, pour ces jeunes que j'ai rencontrés, les jeunes hommes et femmes, c'est que même sans avoir fait de grandes études, on peut devenir quelqu'un de socialement reconnu, valorisé pour son travail. Il y a des figures de réussite qui sont celles d'un employé de la maçonnerie qui monte petit à petit son entreprise, ou même qui reste ouvrier, mais dont on dit qu'il a des mains d'or, par exemple, ou des figures féminines d'une vendeuse qui va gérer en fait l'entreprise, la comptabilité, et puis voilà, comme ça se faire un nom, se faire une honorabilité, et ça on pourrait pas l'avoir en ville. C'est-à-dire les mêmes personnes avec les mêmes qualifications, les mêmes parcours de vie, ils seraient anonymes, il y aurait pas toute l'interconnaissance pour valoriser des qualités qui sont symboliques en fait, et ensuite ils seraient plus précarisés parce que les conditions de vie des mêmes classes sociales mais rapportées en ville avec un pouvoir d'achat moindre, etc., elles seraient beaucoup plus précaires. Donc d'une certaine manière ils ont de bonnes raisons de valoriser le fait de rester à la campagne. Par contre, ils peuvent avoir des espèces de fantasmes comme ça de destination où on pourrait s'enrichir facilement. Je pense à la Suisse notamment, vu qu'on est dans le Grand Est, qui fait la figure d'un Eldorado. Là, c'est pas la ville repoussoir. C'est la ville qu'on peut utiliser pour être très bien payé et ensuite revenir au pays chargé d'argent et faire construire une maison. Ça, c'est les figures très valorisées. Mais de manière générale, voilà, la grande ville, c'est vu comme quelque chose où on disait à Paris, tu sais pas à qui t'as affaire, alors qu'ici, tout le monde pense à peu près pareil. Et je pense que quand on est dans un milieu social où on manque aussi de statut, c'est-à-dire qu'il y a le chômage qui menace, comme je vous disais, les grands collectifs de travail, ils ont périclité, on a moins la certitude de pouvoir devenir un homme ou une femme accompli comme ses parents, alors on se rabat beaucoup sur les enjeux réputationnels. Et l'anonymat, il briserait ça, l'anonymat urbain. Donc on s'attache en fait à l'interconnaissance rurale, c'est pas simplement quelque chose qui serait comme ça valorisé par une forme d'affinité culturelle, c'est vraiment quelque chose de vital qui permet in fine d'avoir bonne réputation, de trouver un travail mais aussi de trouver une compagne, donc de se réaliser.
Mais du coup vous allez à rebours de ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, cette question de l'insécurité culturelle des classes populaires voire des classes moyennes aujourd'hui, telle que l'a doublement théorisé Christophe Guilluy, le géographe de la France périphérique. Vous soulignez plutôt leur fierté, la fierté de leur style de vie, de leur mode de vie, de cette cohérence du groupe justement.
Oui, d'ailleurs même il y a pléthore en fait aujourd'hui de théories qui nous répètent que ce qui marque en fait ces campagnes-là et de manière générale la France loin des grandes villes, c'est l'individualisme et le repli. Et toutes en commun, elles ont un regard urbain, c'est-à-dire que c'est des projections depuis la ville de qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ces territoires-là et qu'on retrouverait en ville. Donc forcément, quand vous définissez quelque chose en négatif, c'est ce qu'on apprend à ne pas faire, notamment en sociologie, quand on enseigne la sociologie à nos étudiants, on leur dit ne définissez pas par l'inverse en fait, un groupe social, un objet, essayez de voir ce qu'il contient. Et moi, c'est pour ça que, plutôt que de projeter comme ça, je sais pas, des études statistiques ou alors de faire des grandes comparaisons avec la ville, je suis plutôt pour dire allons, notamment, moi, comme je fais, c'est des enquêtes ethnographiques, donc passer des années dans ces territoires dont on parle, et voir ce qui se passe ici. Et déjà, rien que le fait d'aller sur place, en fait, c'est un peu s'opposer à des théories du repli de l'individualisme, parce que forcément, quand on y passe du temps, on est impliqué dans ces sociabilités-là. On voit que, par exemple, en milieu rural, les gens s'invitent beaucoup plus chez les uns les autres. Ils ont des fréquentations de groupes, des appartenances très fortes. On a la bande de potes ou le clan d'amis qui est central, en fait, partout et en toutes circonstances pour s'entraider, mais aussi pour passer du bon temps, pour l'hédonisme de la vie. Et ça, il me semble, en fait, que c'est passé sous silence par toutes les théories qui voient que de l'individualisme. Elles ont raison de dire que le marché du travail s'est individualisé. Il y a une individualisation des conditions de travail, tout le monde est dispersé. Il y a des jeunes qui se plaignent que leurs voisins, qui sont des personnes âgées, les connaissent pas parce qu'ils prennent leur voiture et reviennent juste le soir. Mais d'un autre côté, parce qu'on a cette incertitude-là sur le marché du travail, on va investir très massivement les sociabilités, le groupe, et on a besoin de reconnaissance. C'est l'inverse, en fait, de l'idée qu'on se replierait sur l'individualisme et qu'on serait là à regarder la télé, simplement.
Un mot de la méthode, vous l'avez évoqué, pas de système comparatif, mais une démarche ethnographique, passer du temps là-bas avec eux, écouter, comprendre en soi ce milieu, un peu à la manière d'un Nicolas Renaï, l'auteur des Gars du coin, sorti en 2016, lui-même sociologue, et lui-même proche d'un Michel Pialou dans la démarche qui avait co-signé avec Stéphane Beau des années auparavant, retour sur la condition ouvrière, enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. La sociologie, écoutez à ce sujet l'un des grands-pères de la sociologie française, Pierre Bourdieu.
Toute science naissante, quoi, comme la sociologie, est, comme on dit parfois, bordélique. Enfin, elle chahute surtout les cerveaux, elle chahute les structures mentales, elle chahute les manières de penser. Et c'est pourquoi, je crois, elle fait peur. Alors, on la décrit souvent comme terroriste, parce qu'elle terrorise un petit peu, hélas, elle n'a pas les moyens de terroriser vraiment, elle terrorise un petit peu les terroristes, voilà. Enfin, en tout cas, elle s'y efforce, parfois.
La sociologie est une science bordélique, elle chahute les cerveaux, elle fait peur, nous dit Pierre Bourdieu. Quel retour vous avez eu, vous d'ailleurs, des principaux concernés sur votre enquête?
Les retours, ils sont dans la même lignée de ce que je décris dans le livre. La première phrase du livre, c'est « Qui va lire un bouquin qui parle de nous ?» C'est les mots d'une jeune femme enquêtée qui est employée et qui a l'habitude, en fait, de ne jamais voir, notamment dans les médias, mais aussi dans les productions culturelles, des personnes qui lui ressemblent, qu'aurait son accent, qu'aurait aussi ses conditions de vie, qui serait une jeune femme employée précaire comme elle. Donc, il y a cette idée-là que, voilà, ceux qui n'en font pas partie ne vont pas comprendre. Alors même que, finalement, le gros des lecteurs, c'est des personnes qui ne font pas partie de ce milieu-là. Mais en même temps, il y a la conviction, chez les enquêtés, comme on dit, qu'ils n'intéresseront personne. Et ça, je pense qu'il y a tout un travail qui est quasiment un travail de représentation politique derrière, en fait, d'arriver à produire sa propre vérité. Là, je reprends des mots de Bourdieu qu'on vient d'entendre, qui parlait à leur égard d'une classe objet qui est toujours parlée par les autres. Par exemple, avec les... Voilà, ils seraient en insécurité culturelle, mais on n'est pas allé leur demander. Ils seraient des petits blancs repliés sur eux-mêmes. Mais alors, si on les assimilait à ça, eux, ils n'ont pas du tout envie d'être vus comme des petits blancs. Ils sont très fiers de leur style de vie. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que des blancs là-bas, puisqu'on est sur des milieux industriels. Donc tout ça, en fait, ça leur convient pas. Mais d'un autre côté, il y a cette incapacité à accéder aux sphères de production, de représentation du monde social. Donc ils sont obligés d'endosser une vérité sur eux-mêmes qui est produite de l'extérieur. Et à force, cette vérité-là, elle peut avoir des effets performatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir la caricature qu'on fait d'eux, c'est ça qui est assez terrible. Et donc l'idée de la sociologie, de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, et aussi de montrer quel est leur point de vue à eux sur le monde social, de renverser un peu le regard, ça va justement à l'encontre de ces représentations-là dominantes.
Et pourtant vous évoquez la télé, cette télé elle est allumée partout, hein, dans tous les foyers, mais elle projette en fait un autre monde. Elle ne parle jamais de toute cette France-là.
Ben oui, mais et même par exemple la télé on peut penser au JT de Jean-Pierre Pernaut, qui est souvent assimilé en fait à la France rurale. C'est une France de jadis, une France des musées, de la muséographie qui nous est présentée, les vieux métiers, etc. Ou une France à la limite agricole. Les agriculteurs, ils représentent 5 à 6% de la population au milieu rural, alors qu'on a 32-33% d'ouvriers et des proportions d'employés aussi très fortes. Et sur les campagnes en déclin dont je parle, voilà, on est sur 60, 65, 70% d'ouvriers, d'employés cumulés, et les agriculteurs sont très peu nombreux. Mais mais c'est cette représentation-là d'un temps jadis, d'une campagne figée dans le temps qu'on a envie de donner dans les médias dominants. Et ça, je trouve ça un peu dommageable. Et ils ont du mal, en fait, les jeunes que je rencontre, à se construire en dehors de ça.
Partir ou rester, Benoît Coquart, vous l'évoquez, il y a quand même pour ces jeunes un dilemme. Ceux qui restent, vous avez commencé à l'évoquer, mais pour quelle raison, quelle motivation? Est-ce que c'est toujours vécu comme un choix ou est-ce qu'il y a une fatalité à rester aussi?
Il peut y avoir une fatalité pour certains qui sont vraiment dans ce que j'ai appelé dans le livre une autochtonie de la précarité, c'est-à-dire qu'ils se sentaient grillés. On dit, je suis grillé, les gens veulent même pas de moi pour faire du travail au noir chez eux parce qu'ils ont peur que je le fasse mal, etc. Donc il y en a qui sont dans une disqualification, qui sont un peu pris dans une double contrainte, à la fois économique, réputationnelle, qui n'ont pas le permis de conduire, qui ne savent pas où aller chercher du travail ailleurs, parce que voilà, ils ont quand même les liens familiaux qui leur permettent de lutter contre la précarité qui serait plus grande en ville. C'est pour ça aussi qu'on retrouve les plus grandes poches de pauvreté dans les grandes villes, c'est qu'il n'y a pas en fait cette petite solidarité dont peuvent bénéficier même les plus précaires en milieu rural, simplement en habitant proche de leur famille et en s'entraidant. Mais il y a aussi tout simplement ceux qui restent parce qu'ils en ont envie et qu'ils arrivent, comme on disait au début, à avoir un statut social, une honorabilité là-bas qu'ils n'auraient pas ailleurs. S'ils quittaient cet espace social, le petit espace rural où tout le monde se connaît, de fait, ils seraient en fait des gens comme les autres. Alors que là, moi, c'est ça qui m'a un peu interrogé. On est dans des espaces objectivement ségrégés, géographiquement, socialement, mais des espaces d'autonomie. On me disait ici, c'est la Corse sans la mer, mais aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi nos propres règles. On peut se permettre encore d'avoir les loisirs qu'on veut, qui seraient peut-être discrédités en ville, on paraîtrait peut-être comme des ploucs ailleurs, mais au final, on s'en fiche, vu qu'ici, c'est ce qui est légitime. De la même manière qu'on vous dit pas que vous avez un accent quand tout le monde a un accent autour de vous. Il n'y a que quand on va venir sur Paris qu'on va se rendre compte que les gens ne parlent pas comme vous. Mais si on n'y vient pas, on est très bien en fait.
Et vous, Benoît Coquart, aujourd'hui vous avez un accent de sociologue. Vous êtes le sociologue qui s'intéressait à ces gars du coin, comme disait Nicolas Renaï, à ceux qui restent, ceux qui ont choisi de faire leur vie dans ces campagnes en déclin. Nicolas Mathieu, qu'on écoutait tout à l'heure, lui il est originaire des Vosges, il en est parti, il a fait des études à la ville, à Nancy, à Metz, puis à Paris, où il a trouvé du boulot. Il est revenu s'installer finalement à Nancy, parce qu'il ne se sentait pas si bien à Paris. Vous êtes aussi un transfuge de classe?
Oui, dans une certaine mesure, mais au final, moi je viens des milieux populaires, ruraux, donc peut-être moins prédestinés à faire des études longues, mais dans le contexte de massification scolaire qu'on a connu à la fin des années 90, début des années 2000, et le manque de perspective d'emploi local, en fait, c'était vu comme quelque chose de très banal que de partir faire des études, y compris pour des enfants d'employés, de petits employés, d'ouvriers. Donc finalement, moi je me suis pas senti comme ayant une trajectoire marginale. Et ce qui est intéressant avec la sociologie, c'est qu'elle vous permet toujours de rester en contact avec votre milieu. Parce que moi je fais des enquêtes ethnographiques, donc faut que je fasse des choses avec des enquêtés. Je me contente pas de faire des sondages, des statistiques. Et ça permet, je pense, de résoudre plein de questions existentielles que peuvent avoir les transfuges qui se disent est-ce que je trahis mon milieu ou pas. Moi je dis par exemple, au lieu de parler en leur nom, on peut tout simplement leur donner la parole ou essayer aussi de faire émerger depuis ces milieux-là des figures qui soient à même de les représenter.
Mais vous auriez pu étudier sur tout autre chose, vous auriez pu avoir un tout autre terrain de recherche. Vous pensez qu'il y a quand même toujours un peu cette fierté ou cette culpabilité qui travaille au contraire ceux qui sont partis?
Moi c'était surtout à mon milieu d'arrivée, c'est-à-dire le milieu intellectuel, universitaire, avec lequel je voulais régler des comptes en allant... En contrant tous les préjugés caricaturaux que je trouvais omniprésents en fait sur ces populations-là. Moi j'étais quand même très frappé par cette idée que voilà, c'était comme si là-bas il y aurait que des beaufs racistes repliés sur eux-mêmes, et évidemment ça me faisait du mal personnellement, mais aussi je trouvais que dans la recherche il y avait un creux, et je me suis inscrit moi dans la lignée du livre de Nicolas Renaï, que vous avez cité, Les gars du coin, qui était en fait le seul quasiment qui avait dans l'histoire récente des sciences sociales qui avait un peu dépoussiéré tout ça et qui avait montré qu'on était sur une histoire beaucoup plus large que ce qu'on veut nous dire d'une campagne figée dans le temps, qu'en fait c'était aussi des mondes marqués par la mondialisation, où il y avait voilà finalement des thèmes plus généraux de la sociologie qui pouvaient intéresser tout le monde. Mais on est toujours dans une posture de traducteur qui est compliquée en fait, parce que tout ce qu'on peut expérimenter dans le décalage en ce que chez les lecteurs, par exemple, moi j'ai des retours en ce moment de lecteurs, de lectrices surtout, lecteurs aussi, mais qui voient des choses différentes dans le livre, qui se l'approprient de différentes manières, et on se dit ça prend très longtemps de casser en fait des représentations qui sont forgées comme ça depuis l'enfance, où on joue sur l'opposition ville-campagne comme si elle expliquerait tout et n'importe quoi, où on gomme aussi des choses, je sais pas, par exemple aujourd'hui on oppose beaucoup jeunes de campagne, jeunes des champs comme on dit, et jeunes de cité, jeunes de banlieue, alors qu'en fait ils appartiennent à la même classe sociale, c'est des enfants d'ouvriers notamment marqués par la désindustrialisation dans les deux territoires, on voit beaucoup de choses en commun, notamment dans la manière de se mettre en couple, dans la valorisation de la propriété individuelle, l'importance de la voiture, enfin bref, des choses évidentes, mais qu'on a tendance à oublier de rappeler, parce qu'on est toujours sur des perspectives qui sont un peu culturalistes, c'est-à-dire de dire, bah voilà, d'un côté, il y aurait ces Français oubliés, et puis de l'autre, les nouveaux venus, qu'il faudrait forcément leur opposer.
Sur la dynamique personnelle, je vous cite encore les mots de Nicolas Mathieu ce matin dans le Monde Campus, notre Goncourt 2018, auteur de Leurs enfants après eux chez Actes Sud. Il dit, c'est assez classique dans les parcours des transfuges, vos parents vous donnent les moyens de les trahir et après quelque part ils vous le feront payer. Peut-être que oui, j'ai pu être arrogant, mais j'avais vraiment envie de me sortir de ce milieu. L'écriture m'a permis cela. Vous dites pareil de la sociologie ?
Oui, la sociologie, il y a quand même un impératif qui est, je pense, un peu... qui est original et nécessaire, c'est celui de réflexivité. C'est-à-dire que on essaye toujours de se demander comment ça se fait qu'on est amené à changer nos manières de penser, comment ça se fait qu'on a ces préjugés-là sur tel ou tel groupe social, notamment sur tel ou tel objet d'étude. Donc à chaque fois qu'on a une tentation de mépris ou alors de sentiment, voilà, qu'il y aurait une espèce de capacité à tout expliquer trop rapidement, on se demande pourquoi. Et ça, c'est évidemment, ça revient, c'est très critiqué parce qu'on dit oui, mais vous allez nous dire que on est toujours déterminé, qu'on n'est pas libre. Et moi, je pense pas du tout ça. Je pense que c'est justement en pensant les déterminismes qui nous font penser de la manière dont on pense aujourd'hui qu'on va arriver à libérer un petit peu notre capacité à se départir en fait des images toutes faites. Et voilà, moi, mon livre, il est écrit dans cet objectif-là et j'essaye de me l'appliquer à moi aussi.
Benoît Coquart, sociologue, est notre invité à l'occasion de la parution de Ceux qui restent, faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'est à La Découverte. France Culture, il est 13h18.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Benoît Coquart, dans votre livre Enquête sociologique, vous faites ce constat qui interpelle. Les consciences s'adaptent avec du retard au changement de la structure économique et c'est ce délai qui fait des dégâts importants. Comment se manifeste ce décalage ?
Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est complexe parce qu'en fait on se projette... notamment parce qu'on est dans des sociétés où on voit les autres générations avant soi, on voit comment elles entrent sur le marché du travail, comment elles arrivent à acquérir une maison, à avoir un style de vie qu'on valorise, on se projette très tôt là-dedans. C'est-à-dire que les jeunes sur lesquels j'enquête, ils me parlent notamment, je sais pas, par exemple, d'accéder à la propriété bien avant qu'ils aient les moyens de le faire. Et ou alors, ils se voient rentrer dans l'usine de leur village ou de leur canton, alors même que celle-ci, elle n'emploie plus que quelques intérimaires avant d'être délocalisée dans l'Europe de l'Est, ou encore plus loin. Et finalement, il y a toujours une partie de ceux qui s'étaient vus rester ici, qui se retrouvent piégés, qui se retrouvent pris dans la crise. Et c'est ceux-là, en fait, qui vont... récolter les plus forts stigmates finalement, notamment je parle dans le livre d'un mal à mon avis qui est un petit peu méconnu, bien que maintenant il y a 2-3 reportages là-dessus, c'est la consommation de drogue dure, notamment d'héroïne. Si on prend les départements sur lesquels moi je travaille, il y a la Meuse, il y a la Haute-Marne, on est sur les départements avec les plus forts taux de consommation d'héroïne en France. Et ça, en fait, c'est, on voit que ces marchés-là sont arrivés dans les années, début des années 2000, où en fait on était piégé comme ça par d'un seul coup une crise de l'emploi local qu'on n'avait pas vu venir. Alors que les générations d'après, celles sur lesquelles j'enquête plus particulièrement, elles ont vu ces figures-là de jeunes piégés, de leurs grands frères ou de leurs cousins, comme des figures repoussoires. C'est devenu des cas sociaux, enfin voilà, c'est comme ça qu'on en parle. Donc nous, on veut être tout à fait l'inverse. Donc il va y avoir parfois des refoulements comme ça du travail ouvrier et de dire, ben nous, on préfère devenir militaire, par exemple. Donc c'est quelque chose d'extra-local, mais vu qu'on se dit qu'on va pouvoir revenir 3-4 jours par semaine à la campagne, on va pouvoir devenir propriétaire et finalement continuer à vivre comme on l'entend, mais sans compter en fait sur les débouchés du métier traditionnel local. Quoi.
Oui, la drogue, Nicolas Renaïl montrait déjà dans Les Gars du Coin en 2005 comment, à l'image qu'on avait du pétard dans les campagnes, de la marijuana, la cocaïne bas de gamme est arrivée, l'héroïne est arrivée ensuite dans les campagnes et comment elle a pu aussi à un moment ravager, déstructurer aussi cette jeunesse. Vous montrez très bien aussi dans ce livre, Benoît Coquart, comment le lien social a été sapé par la désindustrialisation, par les mutations de l'emploi. Vous dites et vous l'écrivez, on assiste à une déstructuration profonde de tout ce qui se produit, de tout ce qui produit le groupe et la réciprocité, tandis que la rareté des ressources attise les rivalités concrètes et les jalousies latentes. Et en même temps, il y a de nouvelles sociabilités qui sont nées, un nouveau lien social, d'autres lieux de rencontre. On pense beaucoup au bistrot des pères d'avant. Vous évoquiez l'usine tout à l'heure. Retournons juste avec cette jeunesse rurale des années 80. Un extrait d'un reportage de La Marche du siècle, c'était en 87.
Chalivoy, 500 habitants.
Vous avez de la faire,
pas de cinéma, pas de théâtre, pas de bibliothèque, pas de piscine, le désert rural. Seul lieu de rendez-vous, le café chez Gabi.
Moi c'est Dominique, j'ai 18 ans, je travaille en Syrie, dans 2 mois je suis licencié.
Je m'appelle Gilles, j'ai 25 ans, je travaille dans une ferme en tant qu'ouvrier.
Alors moi c'est Isabelle, j'ai 16 ans et demi, puis je suis au lycée Anvers, je prépare un CAP de comptabilité.
À la campagne, dès 18 ans, la priorité des priorités, c'est le permis de conduire. Indispensable pour ne pas se sentir à l'étroit.
Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. L'importance, voire plus encore aujourd'hui, de la mobilité, du permis de conduire, de pouvoir aussi se déplacer pour partir ou pour revenir. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme grande différence entre cet extrait, ce témoignage ? Alors certes, c'est un extrait médiatique. Donc là encore, on joue avec les représentations qui étaient faites de ce désert rural, mot qu'on entend un peu moins aujourd'hui, mais qui était très utilisé auparavant. Sur la question de la sociabilité.
Juste une petite parenthèse, désert rural, ça vient de quoi ? Ça vient d'une définition en négatif. Il n'y a pas de théâtre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de théâtre qu'il n'y a pas de vie derrière. On ne peut pas mettre des théâtres non plus dans toutes les villes et villages de France, qui sait qui irait. Enfin bref. Mais oui, simplement, le permis de conduire, il est devenu de plus en plus important parce que là, les jeunes qu'on entendait dans votre extrait, ils vont encore au bistrot du coin. Moi, j'enquête sur des cantons où il y avait une trentaine de débits de boissons, dans certains cas, des fois une vingtaine, dans les années 70, dans les bonnes années, comme on disait, ou les années des pâtes d'eff. Alors ça, c'était vu comme la bonne époque par les jeunes, un truc nostalgique. Et aujourd'hui, les débits de boissons, il y en a 2 ou 3, donc on n'y va plus. Ça n'attire plus qu'une clientèle relativement restreinte et certainement pas les jeunes. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Et ça, c'est spécifique au Grand Est, aux régions désindustrialisées, parce que si vous vous amusez à regarder sur Internet la carte de France des bars, vous verrez qu'en fait, il y a plein de régions rurales, notamment en Bretagne, où chaque village garde son bistrot et où les jeunes y vont. Donc, on est sur des situations différentes, mais il y a plus d'emplois, mais il y a des retours. Et donc, pourquoi la voiture, elle devient de plus en plus centrale, et le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, on l'a répété maintes fois, c'est parce qu'en fait, on est passé d'une appartenance villageoise et même d'une identité villageoise revendiquée, où finalement, ben, puisqu'on allait au bar, là où on habitait, qu'on travaillait très proche de là où on habitait aussi, qu'on rencontrait son conjoint ou sa conjointe au bal du coin, ça c'était des réalités. Enfin, ça reste dans une certaine mesure vrai dans certaines régions, mais là, moi, sur ce que je vois, c'est plus ça. On est passé d'une appartenance amicale avant tout, où être d'ici, c'est être parmi ceux que l'on connaît. Ça peut être un périmètre très large. Et quand on dit, 4-5 fois par semaine, on se rencontre chez les uns les autres, dans les bandes d'amis sur lesquelles j'ai travaillé, on fait à chaque coup 10 km pour aller chez les uns les autres, ou même 20 km. Et effectivement, l'usage de la route est devenu central, et l'usage de la voiture, non seulement il faut avoir une voiture, mais en plus, il faut faut se méfier des radars, des contraventions, et être en état de conduire, évidemment.
La voiture est devenue, vous l'écrivez, le symbole politique qui les rassemble, un sujet sur lequel même les abstentionnistes patentés se positionnent publiquement. Les Gilets jaunes, quand ils ont fait irruption sur les ronds-points, puis sur les Champs-Élysées, à Paris et partout ailleurs dans des villes de France, et surtout dans la télévision avec ce cri de colère, comment ils ont été perçus? Est-ce que là, l'identification a joué avec cette jeunesse que vous racontez des campagnes en déclin?
Moi, ce qui m'a frappé, je ne sais pas comment ils ont été perçus en ville. Mais en tout cas, je sais comment eux ont perçu l'image qui était renvoyée d'eux. Parce que moi, j'étais sur les ronds-points, en train de terminer l'enquête pour mon livre. Je l'ai commencé en 2011-2010, l'enquête, mais j'ai été voir le mouvement des Gilets jaunes à ses débuts. Et en fait, ce qui était particulier, c'est que c'était un moment où, enfin, on se voyait représenté à la télé. Et très tôt, il y a eu ce moment de réflexivité, de faire un peu la division du monde entre ceux qui méprisent, un ressentiment du mépris de classe qui était réel, en fait, qui pouvait même voir sur les ronds-points parfois, il y en avait qui leur disaient « bande de feignants, vous servez à rien », et à peu près là, les premiers jours, c'est peut-être 80% de la population qui leur disait « on est comme vous, on est avec vous ». Et là, il y a eu une forme, en fait, de prise de conscience qu'on pouvait être ce qu'on est et porter une revendication, que, en fait, les contraintes de la vie quotidienne, elles étaient partagées par d'autres. C'est pour ça aussi qu'il y a eu ce besoin de refaire groupe et de se réunir, c'est que ce qu'on pouvait plus faire dans le travail, parce qu'il n'y a plus de collectif de travail, on le faisait là. On ne le faisait pas effectivement sur les revendications salariales directement, mais sur tout un style de vie en fait, qui se trouvait menacé. Chez les jeunes couples qui vont s'endetter pour une maison individuelle, le budget essence, c'est le billet de trop. On répète en fait que c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais on tient à perpétuer ce style de vie. Maintenant, entre-temps, on a fait des enfants, on s'est inséré. Donc, effectivement, on a vu que il y avait ce sentiment que les revendications portées pouvaient être légitimes à l'ensemble de la société. Et ça a été très fort, en fait.
Alors, vous avez évoqué, Benoît Coquart, les sociabilités masculines, et notamment aussi ce rapport à la mémoire collective, au passé, parfois nostalgique, mais ces nouvelles sociabilités qui se sont aussi reconstituées, vous montrez bien et longuement aussi ce qu'il en est du côté des femmes, du côté de celles qui restent, pour qui la situation est moins enviable, avec une précarité qui touche encore plus les femmes et une sociabilité moins évidente, avec une nostalgie du passé qui se limite à l'adolescence. Les paysans, exprès, vous les avez mis de côté et vous racontez que, au fond, ils sont pas la majorité de la population, alors qu'ils sont souvent eux aussi la face un peu émergée de l'iceberg. Il y a des fictions pour en parler. Petit paysan déjà qui racontait la vie de Pierre, la trentaine, éleveur de vaches laitières, et qui racontait comment sa vie s'organisait autour de sa ferme. Et aujourd'hui, Au nom de la terre, sorti le 25 septembre en salle de Étoire Bergeon avec Guillaume Canet, inspiré de faits réels. Le réalisateur raconte la dégringolade et la fin tragique de son père, exploitant agricole, énorme succès, surtout en région. À la 9e semaine d'exploitation, 2 mois après sa sortie, le film s'apprête à passer la barre des 2 millions d'entrées.
Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec.
Monsieur Vergeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien là, votre nouveau bâtiment. Y'en a qui disent que ton père il se la pète, hein?
Pareil que t'es dans la merde!
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système.
T'étais jusqu'au cou! Dans le système!
Moi, au moins, j'étais libre!
Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde!
Pour s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois. Hein.
C'est fini, les grands bois, si tu passais.
Voilà, extrait de Au nom de la terre. Hier, le périphérique parisien était bloqué par un millier de tracteurs et des agriculteurs en colère, avec un monde paysan lui aussi en souffrance, qui se sent parfois stigmatisé. On parle de l'agribashing aujourd'hui et des revenus trop bas pour vivre. Question de l'attractivité économique et symbolique de ces métiers. Vous parlez peu des jeunes agriculteurs en ce livre. Pourquoi, Benoît Coquart?
En fait, je pense que ça retraduit simplement le fait que dans ces régions de grandes plaines, où on est surtout dans des cas d'agriculture qui a été extensive à une époque, des grandes plaines céréalières, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc on en retrouve quelques-uns dans le livre par-ci par-là, mais c'est vrai qu'ils forment une minorité. Mais néanmoins, leur rôle, leur impact social est potentiellement très important, notamment parce que, même si effectivement on parle de l'agribashing, je dirais à l'échelle de la France entière, localement, la figure du jeune agriculteur, qui est quand même un chef d'entreprise, peut être très valorisée. Il peut notamment jouer le rôle d'entrepreneur de morale auprès de ses amis. Moi, j'ai vu des jeunes agriculteurs qui disaient à leurs copains ouvriers, faut se mettre à son compte, un vrai homme, ça travaille pour soi. Et ça, je pense que ça reste important.
Merci beaucoup à vous, Benoît Coquart. Ce qui reste vient de paraître à la découverte. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Sophie-Catherine Gallet, Laura Dutèche-Pérez, qui ont préparé et programmé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, avec Jérémy Kaufmann et Jordan Fuentes. Un rendez-vous exceptionnel ce dimanche 1er décembre avec France Culture, le festival Un Week-end à l'Est, qui vous invite à une rencontre avec Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien libéré il y a 2 mois après 5 ans de détention en Russie. Rendez-vous tout de suite sur le site de France Culture pour avoir plus d'informations.